Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama.
Y a des soleils, y a des nanas.
L'été.
On va s'enfourrer jusque là.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Des chroniques, des blind tests et des séries sur le cinéma.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
Je suis blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival, c'est-à-dire que nous laissons de côté l'actualité, mais en en parlant quand même, et on vous propose deux séries cet été. Il y en a une qui concerne les true crime qui sont adaptés dans des films hollywoodiens, et aujourd'hui je vais vous parler de Wolf Creek. Et puis toi, tu as prévu une autre série, Guillaume.
Oui, moi je vais vous parler des réalisateurs-compositeurs, et cette fois-ci on fait une petite escale par l'Espagne, bon un peu Hollywood aussi, mais surtout l'Espagne avec Alejandro Amenábar.
Et puis toi, Sofia, tu as vu un film?
Oui. J'ai vu The Ugly de Yeon Sang-ho.
Et je vous parlerai aussi du Triangle d'or qui a été projeté en séance spéciale à Cannes cette année. Mais nous abordons avant tout l'un des survivals les plus brutaux et réalistes des 20 dernières années qui a glacé le sang de toute l'Australie. Nous parlons de Wolf Creek.
Hollywood and True Crime Stories.
Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive?
Les faits divers qui ont nourri le cinéma.
Il est arrivé quelque chose de grave.
Une série inspirée de l'ouvrage d'Esther Hervy, publié aux éditions du Rocher.
Merci, c'est très gentil. Je n'attendais pas tant d'égards.
L'outback australien, un désert de terre rouge, grand comme l'Europe, magnifique, infini, mais profondément hostile. C'est le terrain de jeu idéal pour trois jeunes routards en quête d'aventure et de grands espaces. Mais dans ces immensités désertes, le plus grand danger n'est ni la déshydratation, ni les serpents venimeux, c'est l'homme. En 2005, le réalisateur Greg McLean secoue le Festival de Cannes et les salles de cinéma avec Wolf Creek, un film d'horreur ultra réaliste, poisseux et d'une violence psychologique rare. Présenté comme basé sur des faits réels, et c'est ce qui nous intéresse dans cette série, le film s'inspire directement des vagues de meurtres les plus sombres de l'histoire australienne. Dans son livre, Esther Hervy lève le voile sur les véritables monstres qui ont inspiré le personnage de Mike Taylor.
Ben est australien.
Ouais, de quel coin tu viens?
Sydney.
Capitale du pays de l'Australie. Je te faisais marcher, mon gars. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Vous avez de la chance de voyager avec un mâle. On n'est jamais trop prudent.
Oh.
La batterie parfaite.
Oh. Oh. Je te l'avais dit qu'on n'avait pas s'en faire.
Je sais qu'il est drôle. Il ressemble à ce gars de l'Outback que j'ai vu dans un
ouais.
film.
Ouais. Crocodile Dundee ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est un crétin.
T'es australien, comment ça se fait que t'es pas aussi coloré?
Je commence par les mauvaises nouvelles. Ou les très mauvaises nouvelles. La bobine est foutue. Aucune chance de repartir d'ici.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Merde, j'ai tout fait vérifier avant de partir.
Il y a sûrement une solution?
Ouais, toute seule qui est plus bonne, t'en mets une neuve. Pas plus compliqué que ça. La seule bonne nouvelle, c'est que j'ai la pièce qu'il vous faut. Le problème, c'est que je l'ai pas ici, mais je l'ai à mon camp. Je retourne là-bas, de toute façon, alors je vous tire jusque-là. Je répare ça et demain matin, vous pourrez reprendre la route. Ou vous attendez que quelqu'un passe par ici? On sait jamais. Quand vous aurez décidé, vous viendrez me le dire.
Ouais, merci.
Merci.
Wolf Creek suit Liz, Christy et Ben, trois étudiants partis explorer le parc national de Wolf Creek qui est célèbre pour son gigantesque cratère de météorites qui est bien joli et qu'on voit dans le film. Au moment de repartir, leur voiture tombe mystérieusement en panne, la nuit tombe, l'angoisse monte sensiblement. C'est alors qu'un habitant de la région, un certain Mick Taylor, s'arrête pour leur proposer son aide. Ah oui, il est plutôt bourru, hein, mais d'apparence généreuse, il remorque leur véhicule jusqu'à son camp de mine abandonné. Ce qui commence comme une rencontre plutôt salvatrice bascule rapidement dans un cauchemar absolu. Mick Taylor se révèle être un sadique, un chasseur d'hommes xénophobe qui va séquestrer et torturer le trio. Le film a profondément marqué le public par son esthétique proche du documentaire et par la performance terrifiante de John Jarratt qui campe un bourreau au rire jovial et sadique devenu instantanément une icône du cinéma d'horreur.
Qu'est-ce que vous faites au juste, maintenant?
Si je vous le dis, alors faudra que je vous tue.
Vous tuez pas vraiment des kangourous?
Mais écoutez, moi je rends seulement service aux gens, j'en élimine quelques-uns. Maintenant, il y en a vraiment partout. Comme les touristes.
Oh.
Excusez-moi. Ouais. Ton tour. Attention. Quelle demoiselle ici, fiston. Bon. Je vous ferai savoir quand ce sera réparé.
Merci beaucoup.
Vous n'avez pas à vous en faire.
Merci.
Merci.
Faudra que je vous tue.
Alors, pour nourrir ce récit, l'auteur nous explique que le scénario de Greg McLean est en réalité une synthèse de deux affaires criminelles majeures qui ont traumatisé l'Australie. La première et la plus importante est celle d'Ivan Milat, surnommé le tueur de Routard. Entre 89 et 1993, cet homme sans histoire apparente a semé la terreur dans la forêt d'État de Belanglo, en Nouvelle-Galles du Sud, donc en Australie. Sa cible, de jeunes autostoppeurs et touristes étrangers, principalement britanniques et allemands. Milat les enlevait, les emmenait au cœur des bois, avant de se livrer sur eux à des chasses à l'homme et à des actes de torture d'une cruauté innommable. Sept corps, tout de même, seront retrouvés enterrés dans des tombes de fortune. Arrêté en 94 grâce au témoignage miraculeux d'un survivant britannique, Ivan Milat a été condamné à la prison à perpétuité où il est mort en 2019 sans jamais avoir exprimé le moindre remords.
Hey, c'est ça que ton copain a fait lui aussi. C'est pas un couteau, ça. Ça, c'est un couteau. Oh, arrête, arrête, Lizzie. Arrête de crier, arrête, t'en mourras pas, ok? Moi, j'ai une balle dans le cou, est-ce que tu m'entends aller? Mais non, non. Maintenant, il va falloir que je fasse quelque chose, Lizzie, pour pas te laisser encore de te sauver. Ouais, ça, c'est un truc que les gars utilisaient pendant la guerre du Vietnam. Ça leur permettait de faire des prisonniers et d'en tirer des renseignements. Mais comme ça, ces petits cons pouvaient pas se sauver, tu comprends? Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire, hein? Et maintenant, ça c'est pour avoir bousillé mon camion, espèce de salope!
La seconde affaire intégrée au film est celle de Bradley John Murdoch. En juillet 2001, sur une route déserte de l'Outback, cet homme a intercepté le van d'un jeune couple de touristes britanniques. Et Murdoch a abattu l'homme sur le bord de la route avant de ligoter sa compagne. Par un mélange de chance et d'instinct de survie, la jeune femme a quand même réussi à s'enfuir dans la brousse et à se cacher pendant des heures sous des buissons épineux, échappant au chien et à la traque du tueur avant d'être secourue par un routier.
Maintenant, cette petite opération est appelée mettre une tête sur une pique. Parce que... quand tes vertèbres sont pas mal endommagées.
Dans son ouvrage, Esther Hervy analyse comment le film fusionne méticuleusement ces deux faits divers pour maximiser l'effroi. Le personnage de Mick Taylor emprunte directement à Ivan Milat son allure de bushman australien typique, son équipement de chasseur, son rire provocateur et sa méthode opératoire, notamment la section de la colonne vertébrale pour paralyser ses victimes. En revanche, la dynamique de l'agression sur la route déserte et la traque nocturne d'une des survivantes à travers les broussailles est un décalque quasi direct du calvaire, donc de John Lees face à Bradley Murdoch. La grande force du film est d'avoir déplacé ses intrigues vers le site réel de Wolf Creek, isolant totalement les personnages à des milliers de kilomètres de toute civilisation, là où les véritables meurtres d'Ivan Milat avaient lieu dans des forêts certes denses, mais beaucoup plus proches des axes routiers principaux. Donc Wolf Creek est une œuvre viscérale qui rappelle que le cinéma d'horreur n'a parfois qu'un tout petit pas à faire pour rejoindre la réalité. La film a eu un tel impact en Australie qu'il a provoqué donc à sa sortie une baisse notable du tourisme itinérant dans l'Outback. Effectivement, les gens étaient un peu conditionnés. Un avertissement sanglant gravé dans la pellicule. Donc dans le désert, la solitude est parfois votre meilleur allié. Pour la prochaine chronique, nous irons à la fin des années 70 avec Amityville, la maison du diable. Deuxième série de cette émission estivale de Cinérama, c'est une série consacrée aux réalisateurs qui sont aussi compositeurs. Et aujourd'hui, Guillaume, tu nous parles de Alejandro Amenábar.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
À la fin des années 90, le cinéma espagnol connaît une véritable renaissance. Après la génération de Pedro Almodovar, une nouvelle vague de réalisateurs redonne ses lettres de noblesse au thriller, au fantastique et au cinéma de genre dans son ensemble. À seulement 23 ans, Alejandro Amenábar en devient le chef de file. Son premier long métrage, T6, est un choc. Deux ans plus tard, ouvre les yeux, confirme son talent, avant que Les Autres, avec Nicole Kidman, ne fassent de lui l'un des réalisateurs européens les plus respectés de sa génération jusqu'à Hollywood, qui remakera en parallèle Ouvre les yeux avec Vanilla Sky. Derrière lui émergeront Jaume Balagueró, Paco Plaza ou encore Juan Antonio Bayona, signant la naissance d'un nouvel âge d'or du cinéma espagnol. Mais le chef de file de ce nouvel âge possède quelque chose de plus que ses collègues, c'est qu'il compose lui-même la musique de la plupart de ses films. Il ne cherche pas simplement à accompagner les images, il compose à l'oreille sa mise en scène. Car chez Amenábar, la musique installe le doute, manipule notre perception et devient un véritable outil de narration. Lorsque Amenábar réalise T6, il n'a que 23 ans, mais sa maîtrise est aussi impressionnante que l'histoire qu'il met en scène. C'est l'histoire d'une étudiante en cinéma mettant à jour un réseau de snuff movies. Le réalisateur fougueux, autant dans ses cadres que dans ses notes, épouse pleinement les codes du genre. Cordes tendues, des crescendo, des percussions, de la dissonance, à tel point qu'il fait un peu penser au Marco Beltrami de Scream sorti la même année. Mais ce qui impressionne, c'est la maturité de cette écriture. Parce qu'avec des moyens que l'on devine pour modestes, il parvient à produire une musique qui semble appartenir à une production hollywoodienne bien plus ambitieuse et qui ne dépareillerait pas dans une production dimension qui a produit par exemple Scream. On comprend immédiatement qu'il y a un véritable compositeur de cinéma, un artiste musical tout autant que visuel. Ouvre les yeux, son écriture devient plus ambitieuse. Le film brouille sans cesse la frontière entre rêve et réalité, et la musique participe pleinement à cette confusion. Les thèmes mélodiques paraissent rassurants, romantiques, avant de se transformer progressivement en quelque chose de beaucoup plus ambigu. On remarque la présence de trois notes, presque comme si Carpenter rencontrait le Akira Yamaoka sentimental de Silent Hill, et c'est cette capacité à faire évoluer imperceptiblement une mélodie qui est l'une des grandes forces de la BO. Le spectateur croit reconnaître un thème familier. Mais quelques accords suffisent à lui faire perdre ses repères, exactement comme dans le scénario au final totalement inattendu. Cette approche rappelle d'ailleurs les grands compositeurs de cinéma qu'il admire, comme Bernard Herrmann, célèbre pour ses collaborations avec Alfred Hitchcock. En 2001, les autres marquent son entrée à Hollywood. Nicole Kidman est la vedette du film, Tom Cruise est à la production, mais Amenabar conserve un contrôle artistique total, y compris sur la musique, même si, comme tout le reste, elle change d'échelle. Les longues lignes de violon, les harmonies généreuses et les couleurs orchestrales évoquent enfin, littéralement, des compositeurs comme Bernard Herrmann qu'on avait cité auparavant. Mais cet hommage-là n'a rien d'un exercice de style. Il épouse parfaitement l'univers du film, parce que Les Autres est un récit de fantômes, mais aussi un film en costume, profondément gothique, qui revendique l'héritage des grands classiques du genre. Après le doute, Amenabar assume pleinement le lyrisme du grand orchestre symphonique. Les cordes occupent tout l'espace émotionnel sans jamais tomber dans l'excès, nourrissant une musique qui donne au film son élégance intemporelle autant qu'elle entretient son mystère. Amenabar surprend tout le monde avec Mara d'intro, consacré au destin de Ramon Sampedro, tétraplégique réclamant le droit de mourir. Le changement de sujet est radical, mais son approche musicale reste reconnaissable dans sa construction de l'émotion, encore une fois basée sur une montée de l'intensité. Le suspense laisse place à la contemplation, mais la délicatesse mélancolique demeure intacte car chaque thème semble chercher moins à provoquer l'apitoiement qu'à accompagner la dignité du personnage. Ici, Amenabar n'écrit pas seulement pour un genre, mais surtout pour des personnages. Alors qu'il filme une enquête universitaire, un cauchemar futuriste, une maison hantée ou un drame profondément humain, Amenabar utilise toujours la musique de la même manière, comme une voix intérieure. Comme chez Bernard Herrmann, chaque thème, chaque modulation, chaque montée orchestrale accompagne le spectateur, l'égare parfois, avant de le ramener vers une vérité qu'il n'avait pas vu venir. En bon conteur complet, Amenabar nous mène tout entier vers la révélation de ses récits grâce à la musique.
Eh bien, merci Guillaume pour cette chronique qui revient, alors non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante avec...
David Lynch.
Nous passons à la partie actualité de cette émission. Le réalisateur de Dernier Train pour Busan délaisse les zombies pour un thriller psychologique sombre où l'horreur naît moins des monstres que des failles de l'âme humaine. C'est toi, Sophia, qui nous parle de The Ugly.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Il y a des cinéastes qu'on croit connaître avant qu'ils ne nous rappellent qu'ils ont en fait plusieurs vies. Yong Sang-ho, on l'associe surtout au carnage ferroviaire et zombiesque de Dernier Train pour Busan, immense succès mondial de 2016, ou plus récemment à Colonie avec The Ugly. Et Olgul, en coréen, qui signifie littéralement « visage », il change complètement de registre, tout en renouant avec la veine la plus sombre de ses débuts, celle du Roi des Cochons, son premier long-métrage d'animation sur les violences sociales. Le film adapte son propre roman graphique, publié en 2018, un projet d'abord pensé comme un film d'animation, avant d'être tourné finalement en prise de vue réelle. C'est aussi sa première production véritablement indépendante, avec un tournage un peu à l'os, 2 semaines de préparation, 13 jours de tournage, et une équipe d'une vingtaine de personnes seulement. Présenté en avant-première mondiale au Festival de Toronto 2025, dans la prestigieuse section Special Presentations, celle qui a révélé Mademoiselle ou Decision to Live de Park Chan-wook, par exemple. Depuis, The Ugly a aussi rencontré un beau succès au box-office coréen. Ce thriller familial emprunte les codes du polar pour explorer des thèmes bien plus vastes, la mémoire, les récits contradictoires et les violences faites aux femmes dans une société profondément patriarcale.
Ils s'imaginent que quand on est aveugle, on ne se pose pas la question de ce qui est beau et de ce qui est laid. Les gens se trompent.
Vos tampons sont très beaux.
Aveugle de naissance, Im Yang-gyu est un maître artisan renommé pour la finesse des sceaux qu'il grave à la main. Il vit reclus avec son fils, Dong Hwan, qui lui supervise le tournage d'un documentaire consacré au travail du paternel. Mais le projet bascule lorsque la police découvre les ossements de sa mère disparue 40 ans plus tôt. Accompagné d'une journaliste convaincue qu'il reste bien des zones d'ombre dans cette affaire, Dong Hwan remonte le fil du passé en retrouvant les anciennes collègues de sa mère, ouvrières dans une usine textile. Témoignage après témoignage, le film reconstitue le portrait d'une femme dont le fils ignore jusqu'au visage. Tout le monde la disait si laide qu'il n'existe presque aucune photographie d'elle. Il ne lui reste que les souvenirs des autres, les rumeurs et une disparition jamais élucidée.
Vous avez réussi à élever votre fils tout seul.
La police ?
C'est au sujet de Zhang Yanghui. C'est votre mère.
Je croyais que ma mère nous avait abandonnés pour refaire sa vie ailleurs.
C'est ce que je croyais, moi aussi.
Sur le plan du récit, The Ugly fonctionne très bien. Cette enquête construite autour d'une succession de témoignages maintient l'intérêt jusqu'au bout, même si le scénario laisse parfois deviner un peu trop tôt la direction qu'il emprunte. Mais l'essentiel n'est finalement pas de résoudre l'énigme, c'est plutôt de comprendre comment une société fabrique ses propres aveuglements. L'idée la plus forte de Yeon Sang-ho tient justement dans cette réflexion sur le regard. Ces deux personnages principaux sont aveugles, alors le père littéralement, le fils plus symboliquement. Quant à la femme au cœur du récit, la mère donc, elle n'existe plus qu'à travers les souvenirs des autres. Et le film refuse obstinément de faire entrer son visage dans le champ. En ne montrant presque jamais cette prétendue laideur, il place le spectateur dans la même position que son héros, Dong Hwan. Nous aussi sommes condamnés à nous représenter cette femme à travers les récits des autres. Une manière aussi simple que redoutablement efficace de nous faire éprouver le poids des préjugés avant de les remettre en question. Ce n'est finalement pas un visage que le film nous invite à observer, mais les discours qui l'entourent, les rumeurs, les rapports de domination, les violences ordinaires deviennent les véritables objets du regard. Photographié par Pio Sang-woo, qui distingue chaque époque du récit grâce à des palettes chromatiques rétro très marquées, The Ugly s'inscrit dans cette tradition du cinéma coréen où l'enquête sert avant tout à radiographier une société, comme dans Mother de Bong Joon-ho. Derrière une même recherche de vérité, c'est tout un système de silence, de compromis et de violence, au pluriel, qui se dévoile.
Je me demande à quoi elle ressemblait.
Elle était une laideur.
Vous pensez que quelqu'un aurait pu lui en vouloir pour quelque chose ?
Dégage !
Attendez. Maintenant que vous le dites, je crois me souvenir d'une histoire.
C'est ce laideron, avec sa langue de vipère, qui a tout fait s'effondrer. Elle a bien mérité de se faire battre.
Derrière son intrigue policière, The Ugly s'intéresse finalement moins à la culpabilité d'un individu qu'au récit que les sociétés fabriquent pour rendre certaines violences acceptables. Sans jamais céder au spectaculaire, Yeon Sang-ho montre comment les préjugés et la domination masculine s'inscrivent dans les gestes les plus ordinaires. Un thriller parfois un peu démonstratif, mais porté par une idée de cinéma particulièrement forte et qui rappelle que le véritable visage de la monstruosité n'est pas toujours celui qu'on croit.
The Ugly, donc ce film coréen, est en salle depuis le 29 juillet. Le luxe peut aussi être une prison. C'est le point de départ du premier long métrage d'Hélène Rosler-Ruiz, un thriller psychologique où derrière les dorures d'un hôtel particulier parisien se cachent la surveillance, l'emprise et la peur. Nous parlons du Triangle d'Or.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
On recherche une personne qui pourrait gérer le quotidien d'une cliente assez exigeante. On a besoin d'une disponibilité totale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu veux compter quand ?
Bah, quand vous voulez.
Le Triangle d'Or d'Hélène Rosler-Ruiz, projeté en séance spéciale au dernier Festival de Cannes, fut l'une de ces belles surprises de l'édition. Un film qui tranche par sa simplicité. Laura, âgée de 20 ans, cherche un petit boulot avant d'intégrer l'armée. Alors elle passe à un entretien d'embauche dont on voit les concurrentes, mais c'est elle qui est choisie. Et tant mieux, car c'est bien payé. 250 € la journée, mais attention, les conditions sont strictes. On recherche une personne qui pourrait gérer le quotidien d'une cliente assez exigeante. Lui dit-on. On souhaite quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec une clientèle du Golfe. Madame, elle ne sort pas. Ne soit jamais plus belle qu'elle, elle n'apprécierait pas. Voilà autant de recommandations qui sonnent comme des impératifs. D'autant qu'il faut être présente 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ici, t'as des caméras de surveillance. Fais gaffe, il y en a un petit peu partout. Madame, elle ne sort pas.
Elle me dit ce qu'elle a fait. Qui elle appelle, si quelqu'un vient, ce qu'elle achète, tout.
Laura se retrouve donc seule au service de Surya et du prince qu'elle ne doit jamais regarder dans les yeux. Ce petit monde vit dans un hôtel particulier parisien, très luxueux du 8e arrondissement et bourré de caméras. Elle découvre un monde qu'elle ignorait. Surya vit au rythme des masseuses, manucures, pédicures, reçoit des vêtements des grands magasins parisiens. Elle ou le couple ont parfois des envies de McDo et quand elle demande quel menu, eh bien, on lui répond « tous, on verra ». C'est un monde d'opulence qui ne lui laisse qu'une maigre place, celle de se taire, de bien servir, mais aussi de surveiller. Elle apprend de l'assistant du prince, qui n'est pas dupe de la crapule qui l'accompagne, que Surya n'est pas sa femme. C'est une concubine, et tout comme elle, elle peut se faire dégager. Aussi, quand le prince s'en va, elle doit lui raconter ses faits et gestes, qui elle appelle, si quelqu'un vient, ce qu'elle achète, tout prévient-il. Aussi, si la belle se fait ouvrir ses bouteilles d'eau, se montre puissante et insolente, voire méprisante, la demeure dans laquelle elle est retenue ne lui appartient pas. Rien ne lui appartient.
Yella, go, go. Do you work out every day? Are you better at this than at serving? I don't know.
Alors qu'on imaginait qu'il n'y avait qu'une seule femme qui était niée, retenue, il y en a bien deux. Et l'une ne semble encore plus à plaindre que l'autre, car Laura peut partir à tout moment. Pour Surya, c'est plus compliqué. En guise de métaphore, il y a cette panthère noire qui est retenue en cage et placée sous sédatif pour ne pas causer de problème. C'est tout l'objet du scénario qui va nous propulser dans un thriller en huis clos avec une mise en scène qui va mêler action, tension et images de caméras de vidéosurveillance, un tel système pouvant être utilisé finalement à plusieurs fins, pour la surveillance, la protection ou d'espionnage pur et simple.
Give me your phone. My phone. Yes, quick. J'ai peur de me faire virer.
Elle aussi, elle peut se faire dégager.
C'est pas sa femme, il la cache ici, c'est tout.
Toi, tu fais bien ce qu'on te demande.
Moi, je suis payée.
Et moi, je gagne rien.
N'importe quelle femme voudrait épouser un homme comme lui.
Tu penses que je devrais pas l'aimer?
Tu devrais pas te laisser maltraiter?
C'est compliqué.
Vous avez rien à faire ici?
Elle est où la fille?
C'était loin ça.
Interprétée par Malou Kebizi, découverte dans Diamant Brut, Laura se montre convaincante dans ses choix et son obstination à aider celle qu'il a d'abord méprisée. Avant cela, elle apprend à adopter un comportement conforme à ce que l'on attend d'elle, car elle a besoin d'argent. Elle est aidée par l'assistant du prince, qui montre une certaine empathie et un peu dupe de la place qu'il occupe. Et quand Laura veut partir après un énième comportement déplacé de sa maîtresse, eh bien cette dernière la supplie de ne pas l'abandonner. Le rapport de domination change alors. Pour Laura, ce n'est qu'un boulot. Pour sa maîtresse, c'est un autre jeu. Il se joue alors un lien de sororité qui va traverser le thriller et le dépasser. Le Triangle d'Or est en salle depuis le 29 juillet.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
C'est fini pour aujourd'hui, Cinérama. Vous le retrouvez la semaine prochaine dans la version estivale et ce sera une émission où on fait une sorte de pause. Nous allons passer toute l'émission avec Sinclair, l'artiste. Il nous a accordé, eh bien, une bonne demi-heure et on vous la remettra. À la semaine prochaine.